Bonjour Thomas Posado.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de Marseille et merci à Olivier Martoc qui a permis cette liaison. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université Paris 8, vous êtes spécialiste du Venezuela. Élection présidentielle aujourd'hui au Venezuela, elle devrait reconduire au pouvoir le président sortant Nicolas Maduro avec sa dérive autoritaire. D'ailleurs, Maduro n'a pas hésité à avancer le scrutin à aujourd'hui en pensant que cette période lui serait peut-être plus favorable. En quoi un scrutin aujourd'hui lui serait plus favorable qu'à l'automne prochain, comme c'était prévu ?
Elle permet à ce qu'il n'y ait pas de primaire de l'opposition. Elle le permet de capitaliser sur une vague d'élections locales qu'il y a eu en octobre et en décembre dernier, où, à la surprise générale, le parti du gouvernement l'avait emporté. En accélérant le calendrier électoral, Nicolas Maduro espère pouvoir capitaliser sur ces succès-là et puis prendre de court l'opposition en l'empêchant de s'organiser, d'avoir un candidat unique. Et de fait, la manœuvre a plutôt réussi puisque l'opposition est aujourd'hui divisée.
Oui, l'opposition qui a préféré boycotter le scrutin, elle parle de farce électorale. Les rares opposants au Venezuela, ceux qui se présentent, sont qualifiés de traîtres. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune chance d'être élus ?
Ça veut dire qu'ils ont des chances hypothéquées, puisque les quatre principaux partis de l'opposition, effectivement, appellent au boycott du scrutin. Et donc, de fait, hypothèque, un vivier de voix important qui aurait pu être nécessaire à Henri Falcón, donc le principal candidat de l'opposition, pour essayer de l'emporter.
Oui, Henri Falcón, ancien proche de Chavez, qui a pris ses distances en 2010. En 2010, pourquoi a-t-il pris ses distances, d'ailleurs ?
Pour un tas de raisons, pour des raisons de son parcours local. C'était déjà le gouverneur d'un état régional dans le Lara, et à la fois des divergences politiques et des opportunismes locaux ont fait qu'il a pris ses distances en 2010 et qu'il s'est assez rapidement rapproché de la coalition de l'opposition. Et il en était un des dirigeants de la coalition de l'opposition. Il était candidat de l'opposition donc en octobre dernier dans les élections régionales de l'état du Lara. Donc c'était un des dirigeants de l'opposition, mais des tendances les plus conciliantes, celles qui appelaient à utiliser tous les espaces démocratiques possibles et de participer à tous les échanges électoraux et être le moins dans une stratégie de confrontation avec le gouvernement de Nicolas Maduro.
Et quand les opposants à Maduro disent que ce candidat Henri Falcón de l'opposition a été installé par Maduro lui-même en guise de caution démocratique, est-ce qu'ils ont raison de dire ça ?
Alors, Henri Falcón représente un courant de l'opposition qui existe réellement et qui est celui de ne pas se confronter directement et de ne pas avoir une stratégie de la confrontation, de la manifestation de rue, etc. avec le gouvernement. Après, c'est vrai qu'aux yeux d'une partie de l'opposition, cet homme est jugé comme un traître. Il le surnomme Falcón, c'est-à-dire un jeu de mots à partir de son nom et sur la base de falso en espagnol.
Falsifié. Faux. Oui.
C'est effectivement une critique qui lui est faite parce que par exemple, sa campagne, il va pas l'axer sur la dérive autoritaire du gouvernement Maduro, mais il va l'axer sur les conditions de vie économiques que vivent les Vénézuéliens. Et il va appeler, par exemple, Maduro le candidat del hambre, donc de la faim, F-A-I-M, en lui reprochant donc la situation économique que vivent les Vénézuéliens, mais en l'attaquant très peu sur la dérive autoritaire réelle que connaît le Venezuela et qui, aux yeux des opposants les plus durs, est une dictature de type totalitaire.
Oui, ce qu'il faut préciser effectivement, c'est que Nicolas Maduro s'est approprié pratiquement les pleins pouvoirs au Venezuela. Comment s'y est-il pris ?
De manière progressive, on a une judiciarisation, une mise au pas des institutions juridiques à son service, et où petit à petit on a une convergence entre l'État et le parti au pouvoir, le PSUV, qui fait que son pouvoir est chaque fois renforcé et où il essaye de gagner de garder le pouvoir par la mainmise des institutions, ce qui perd dans l'impopularité et dans sa difficulté à mobiliser la population vénézuélienne à son service. C'est-à-dire qu'au Venezuela, on avait au départ Hugo Chavez qui a réussi à garder le pouvoir avec la mobilisation populaire, y compris en défaisant la mainmise que l'opposition avait sur certaines institutions. Et aujourd'hui, on est dans la dynamique inverse où c'est grâce à la présence dans les institutions que Nicolas Maduro arrive à se maintenir au pouvoir, y compris en absence et même avec une impopularité politique qui est de plus en plus forte.
Et pour ce scrutin aujourd'hui, scrutin présidentiel, les opposants de Maduro accusent Maduro d'avoir acheté les voix avec le peu d'argent public qui reste dans les caisses. Comment achète-t-il les voix ?
Alors au Venezuela, on est dans une économie qui est rentière, donc 95% dépend du pétrole et où l'État a un fort rôle. Hugo Chavez, à partir de 2003, a mis en place des missions, donc des programmes sociaux, de santé, d'éducation, d'alimentation, de logement. Aujourd'hui, dans la situation de crise des dépenses publiques, la plupart de ces programmes sociaux sont quasiment à l'arrêt et l'effort des programmes sociaux, il est concentré sur l'alimentation. Et c'est à travers ce biais-là donc que Nicolas Maduro arrive à fidéliser des électeurs. C'est-à-dire que là où Hugo Chavez avait un système de subvention de produits alimentaires à bas coût, mais dans des supermarchés où tout le monde pouvait l'acheter, Nicolas Maduro a mis en place des bourses qu'il appelle des CLAP, donc comités locaux d'approvisionnement et de production, qui donnent un panier de manière plus ou moins régulière aux habitants de nourriture, alors pas suffisamment pour se nourrir tout le mois, mais quand même avec, dans une situation de crise alimentaire, un bénéfice non négligeable.
Donc paniers repas contre des bulletins de vote.
Et voilà, le problème, c'est que ce panier repas est distribué de manière individuelle, donc avec un lien clientéliste qui est extrêmement fort, surtout quand on approche d'une échéance électorale aussi cruciale que celle que vit aujourd'hui le Venezuela.
La dérive autoritaire de Nicolas Maduro, cette population vénézuélienne qui n'a plus le minimum vital pour vivre, les réactions des États-Unis, de l'Europe et de la France, tout ça, on va en reparler, Thomas Posado, après la revue de presse d'Edouard Marguier. Il y aura aussi les questions de Patricia Martin, les questions des auditeurs. Comment vivre aujourd'hui au Venezuela qui manque de tout? Vos questions, les auditeurs de France Inter, c'est au 01 45 24 7000. A tout de suite.
France Inter, le 6-9 du week-end. Éric Delvaux.
Élection présidentielle aujourd'hui au Venezuela. La dérive autoritaire du président sortant Nicolas Maduro, qui pourrait bien être réélu ce soir. La survie au quotidien des Vénézuéliens qui n'ont plus accès aux produits de première nécessité. Les réactions internationales. On en parle ce matin avec notre invité en duplex à Marseille, Thomas Posado. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université de Paris 8 et spécialiste du Venezuela. Question des auditeurs dans un instant. Un mot d'abord sur le Venezuela qui possède les principales ressources pétrolières de la planète. Et pourtant, ce pays est aujourd'hui un désastre économique et social avec une hyperinflation, un manque criant donc de produits de première nécessité. Pour les Vénézuéliens, il faut bien insister sur le fait que le quotidien s'apparente bien à de la survie, hein.
Oui, tout à fait. On a une crise économique qui est tout à fait dramatique aujourd'hui au Venezuela. L'inflation atteint aujourd'hui 14 000%. Il y a des pénuries alimentaires, des pénuries de médicaments. Donc, vous le disiez, le salaire minimum représente 10% à peu près de ce qu'il faut à un foyer pour s'alimenter mensuellement, au point qu'il y a des salariés qui vont plus au travail parce qu'ils considèrent que leur salaire ne leur permettra pas de vivre et essayent d'avoir des moyens de débrouille autres plutôt que de travailler pendant tout le mois pour avoir un salaire qui est de misère, de fait. Le Venezuela a effectivement les premières ressources pétrolières, mais du coup, ça induit une économie qui est monodépendante à un seul produit et ça crée des cycles d'abondance et de crise assez récurrents au Venezuela.
C'est la limite des économies rentières. On est arrivé à la limite de ce système.
Tout à fait. Et ce qui fait qu'on a des situations de grande abondance quand le cours du pétrole s'envole, donc quand c'était à plus de $100 entre 2004 et 2014, et aujourd'hui de grandes crises, avec un phénomène supplémentaire qui est l'effondrement de la monnaie vénézuélienne actuellement, parce que Hugo Chavez a mis un système de contrôle d'échange qui a été détourné par des grandes entreprises avec la complicité du gouvernement, qui a coûté des centaines de milliards à l'économie vénézuélienne et qui fait que aujourd'hui il faut 700 000 bolivars pour avoir un dollar au marché noir, alors qu'il y a encore 6 ans il en fallait seulement 10.
Alors je voudrais insister là-dessus, Thomas Posado, ce désastre économique au Venezuela, il est dû, dit-on, à ces entreprises qui ont volé l'argent de l'État. Il s'agit de quelles entreprises et par quel mécanisme ?
avec la complicité du gouvernement. C'est-à-dire que toute entreprise qui voulait faire du commerce extérieur, elle demandait des dollars subventionnés au gouvernement. Et ce qu'on a repéré, c'est qu'il y avait un phénomène de surfacturation des importations ou des importations qui n'étaient, des demandes de dollars subventionnés pour des importations qui n'étaient pas réalisées et où, moyennant une commission à des fonctionnaires gouvernementaux qui s'enrichissaient de manière gratuite sur ce biais-là, on a des fortunes considérables qui ont été accumulées. Donc, par des grandes entreprises qu'on connaît, des grandes entreprises occidentales, mais aussi ce qu'on appelle une bolie bourgeoisie, c'est-à-dire des entreprises qui se sont enrichies par ce biais d'exportation et par le lien politique qu'elles avaient avec le gouvernement.
Mais alors, quand Maduro parle de sabotage qui a fait s'effondrer la monnaie, lui-même a participé à ce sabotage alors ?
Ce qu'il essaye de faire croire, c'est qu'il n'en est pas responsable et que c'est une guerre économique qui lui est menée par les élites contre lui. Après, moi, ce que j'analyse et ce que j'en vois, c'est que gouvernement a une responsabilité dans cet effondrement économique et dans ce détournement de la monnaie vénézuélienne.
Avant d'aller au standard, une question de Patricia Martin.
Il y a aussi de sombres histoires économiques derrière le fait que beaucoup de compagnies aériennes ne vont plus au Venezuela de ce point de vue-là. Paraît complètement anachronique et surréaliste, mais c'est un pays qui est coupé du monde. Je crois qu'Air France a encore quelques vols, mais il y a beaucoup de compagnies qui n'y vont plus.
Tout à fait, parce que pendant des années, ce qui était compliqué, c'était dans quelle monnaie on paye. Est-ce qu'on paye au cours officiel ou est-ce qu'on paye au cours au marché noir ? Quand on a une différence entre le cours au marché noir et le cours officiel qui est de 1 à 10, 1 à 20, 1 à 100, c'est extrêmement compliqué pour les compagnies aériennes. Selon qu'on achète notre billet à Paris ou à Caracas, la perte, elle est extrêmement importante. Et de fait, oui, il y a de moins en moins de vols et de plus en plus de compagnies qui en plus jugent qu'elles ont une dette à l'égard du gouvernement vénézuélien. Après, je ne connais pas les détails des contrats juridiques entre les compagnies aériennes et le gouvernement vénézuélien.
Et la conséquence de ce désastre économique et politique, ce sont les millions de Vénézuéliens qui fuient leur pays, principalement en Colombie, au Chili, Équateur, Brésil. Est-ce que ces Vénézuéliens de l'étranger pourraient voter aujourd'hui et tenter de faire pencher la balance contre Maduro ?
Alors, ces Vénézuéliens qui partaient il y a encore 10 ans, c'était des opposants, c'était des gens plutôt aisés. Aujourd'hui, c'est le commun des citoyens et c'est ceux qui veulent essayer d'avoir un avenir un peu meilleur. Donc c'est des gens plus pauvres et peut-être même certains qui peuvent vouloir voter pour Nicolas Maduro. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement Maduro n'a pas renouvelé les registres électoraux en laissant suffisamment de temps pour que tous ces Vénézuéliens qui sont à l'extérieur puissent voter et puissent participer à ces élections. Et aurait été sans doute un vivier de voix plutôt pour l'opposition que pour Nicolas Maduro lui-même, évidemment.
Thomas Posado, donc spécialiste du Venezuela, on va aller au standard avec une première question de David qui nous appelle. Bonjour David. Alors David n'est peut-être pas encore en ligne. Jean-Claude peut-être. Jean-Claude, bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question ? Vous êtes à l'antenne.
Oui, alors ma question c'était de savoir qu'est-ce qui fait que cette question du Venezuela est si complexe et pourquoi est-ce qu'il est si compliqué d'avoir des informations en France ? Alors, peut-être quelques petits arguments à ce sujet. Il y a eu des manifestations avec des morts, mais l'opposition est-elle armée ? Enfin, on n'arrive pas à savoir, etc. Il y a un voisin quand même très puissant, les États-Unis, vous venez de le dire, il y a une rente pétrolière, mais on fait comme si ça n'intéressait pas les États-Unis. Dans quelles conditions les gens votent ? Il y a un homme nommé Jimmy Carter qui avait dit que le Venezuela avait le système qui évitait le plus la fraude, mais ça n'empêche pas de parler de manipulation. Enfin, voilà, il y a tout un tas de... Et puis les déclarations du président Macron, qui a dit qu'il apporterait un soutien à des mesures, à des réprimandes contre le Venezuela, si la démocratie était menacée, bon, ce qui est intéressant, mais apparemment, ce genre de déclaration, il ne le fait pas pour d'autres pays, notamment dans le Golfe, où la démocratie n'est pas forcément mieux respectée. Donc, pourquoi cet intérêt ? Pourquoi cette instrumentation de la question vénézuélienne ? C'est ça qui m'interroge.
Eh bien, on va écouter la réponse de Thomas Posado. Est-ce que les États-Unis, l'Europe et la France, quand ils prennent des sanctions financières contre l'actuel régime vénézuélien, est-ce que ce régime vénézuélien ou le Venezuela en général est particulièrement plus ciblé que les autres pays ?
Oui, tout à fait. Ce que dit votre auditeur en termes d'instrumentalisation de la question du Venezuela en France, elle est réelle. Il y a un deux poids deux mesures dans le discours d'Emmanuel Macron à l'égard du Venezuela qui reçoit des opposants parmi plutôt les plus intransigeants et les plus liés aux classes possédantes donc à l'Élysée. Et effectivement, il y a la réception du président égyptien, du prince héritier saoudien il y a moins de 2 mois qui, eux, ont un comportement beaucoup plus répressif à l'égard de leurs opposants. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit excuser ce qui se passe au Venezuela et que Nicolas Maduro ne connaît pas une réelle dérive autoritaire. Mais quand Jimmy Carter parlait de...
Oui. Pardon, quand les États-Unis, l'Europe, la France prennent des sanctions financières contre le régime vénézuélien, c'est pour inciter Maduro à dialoguer avec son opposition. Est-ce que ça peut porter ses fruits ?
Je pense pas. Je pense que c'est réellement contre-productif, puisque au Venezuela, ce discours, il est ressenti par les élites néocoloniales qui essayent de s'ingérer dans la politique vénézuélienne. Et à chaque discours de Donald Trump, d'Emmanuel Macron ou de Mariano Rajoy, on a un autre discours au Venezuela qui est de mobiliser les Vénézuéliens dans la défense de leur souveraineté nationale et en opposition à toute ingérence. Et ce discours, je pense qu'il est plus contre-productif qu'autre chose dans la tête des Vénézuéliens lorsqu'il est produit.
N'y a-t-il pas une malédiction générale qui touche, alors là, de façon plus générale, l'Amérique latine, c'est-à-dire bon, l'Argentine qui est au bord du précipice régulièrement, et c'est le cas en ce moment. Le Brésil, on sait ce qui s'y passe, on peut parler du Pérou, de l'Uruguay. Il y a des dictatures, des menaces de dictatures, quelquefois militaires, quelquefois pas, qui rôdent. C'est à pleurer. Tous ces pays sont des pays extraordinaires avec... des richesses naturelles, des richesses humaines, une jeunesse prometteuse. Le monde marcherait sur trois pattes s'il n'y avait pas l'Amérique centrale, l'Amérique latine.
Tout à fait. On a eu une vague de gouvernements de gauche entre 2000 et 2015 qui a réussi à redistribuer une partie des richesses, mais en s'appuyant au maximum sur les matières premières. On appelle ça l'extractivisme, c'est-à-dire de capitaliser au maximum le boom des matières premières pour redistribuer une partie des richesses. Le problème, c'est que quand on a une décrue du cours de ces matières premières, ces pays se retrouvent en crise. Et c'est le cas donc au Venezuela, mais c'est aussi le cas au Brésil, où il y a aussi une régression démocratique extrêmement forte. C'est le cas en Argentine. Et on a des pays qui subissent ces cycles économiques, mais qui sont en fait dépendants du cours des matières premières, et lorsque les matières premières sont à un coût élevé, il y a de l'argent à redistribuer, et le jour où ce cours diminue, on n'a pas diversifié l'économie et on se retrouve dans des situations de crise tout à fait préoccupantes pour la population, et où dans tous les cas, les plus fortunés n'ont pas été frappés par la crise, puisqu'ils s'enrichissent au contact du gouvernement dans un premier temps, et puis qu'ils arrivent à dépasser cette crise dans un second temps.
Thomas Posado, on a vu cette semaine une remontée des cours du baril de pétrole. Or, même si ça devait remonter encore, la crise au Venezuela est trop profonde pour être surmontée à court terme.
Ah oui, tout à fait. Enfin, on est dans un pays qui a entre 100 et 150 milliards de dollars d'endettement.
Avec aucun espoir de faire annuler la dette, d'ailleurs.
Pour l'instant, oui, non. Les créanciers n'ont absolument pas cette envie-là. Et ce qui est un des reproches qui peut être fait à Nicolas Maduro, c'est que Nicolas Maduro paye sa dette rubis sur ongle plutôt que d'importer de la nourriture et des médicaments, ce qui serait une situation d'urgence pour la population. Et c'est pas sa revendication. Nicolas Maduro aujourd'hui essaye d'avoir une respectabilité financière la plus forte et donc de payer sa dette en temps et en heure. Après, une annulation partielle ou totale de la dette permettrait d'avoir un petit peu d'oxygène pour l'économie vénézuélienne, même si c'est un problème structurel profond sur qu'est-ce qu'on produit au Venezuela et comment on sort de cette dynamique rentière qui rend le Venezuela sujet à des crises économiques de manière extrêmement régulière.
Une dernière question, et pardon de vous presser en quelques secondes, Thomas Posado. Quelle carte jouent les États-Unis qui menacent encore de durcir encore un peu les sanctions contre le Venezuela ? Ce serait contre-productif pour les Vénézuéliens qui souffrent déjà ?
Tout à fait, ça aggrave la situation. Les États-Unis ils mènent pas des sanctions, par exemple, sur le pétrole vénézuélien. Enfin, les États-Unis sont encore le premier client
du pétrole vénézuélien.
Mais ils continuent à empêcher que le Venezuela contracte de la nouvelle dette. C'est-à-dire que du coup, le Venezuela est obligé de chercher d'autres moyens, de créer une crypto-monnaie, de créer d'autres moyens pour contracter de nouvelles obligations. Ce qui fait, c'est que le Venezuela se rapproche de d'autres acteurs. Enfin, on estime que grosso modo, les États-Unis ont perdu 10 points du commerce dans le commerce vénézuélien, 10 points qui ont été récupérés principalement par la Chine, plus marginalement par le Brésil, mais où de fait, les États-Unis s'éloignent du Venezuela.
Merci bien. Donc, élection présidentielle aujourd'hui au Venezuela. On va en reparler toute la journée sur France Inter et demain également. Merci Thomas Posado, docteur en sciences politiques à l'Université Paris 8, spécialiste du Venezuela. Et merci encore à Olivier Martoc à Marseille qui a permis ce duplex. Il est 8h52.